Bonsoir tout le monde. Alors, au nom des Bibliothèques et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente, Jocelyne Dazé, agente à la programmation culturelle. La conférence de ce soir s'intitule « La Bibliothèque des premiers orateurs québécois, de l'art de bien dire à l'invention d'une parole citoyenne ». Nous avons le plaisir d'accueillir M. Marc-André Bernier, titulaire de la chaire de recherche du Canada en rhétorique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. M. Bernier travaille à la réalisation d'un inventaire des imprimés européens des 16e, 17e et 18e siècles présents sur le territoire québécois, projet auquel Bibliothèque et Archives nationales du Québec participent activement. Il abordera ses précieuses collections par le biais des traités anciens de rhétorique qui ont contribué à la formation des premiers orateurs et gens de lettres québécois. Nous recevons également M. Michel Brisebois, spécialiste du livre ancien, à la direction de la recherche et de l'édition de Bibliothèque et Archives nationales, qui fera état des activités de BANQ au sein des projets d'inventaire du livre ancien au Québec. Une période de questions suivra les communications de nos invités. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Monsieur Bernier.
Je vous remercie. Alors, j'aimerais d'abord remercier Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour cette aimable invitation à venir vous adresser la parole dans cette salle, au demeurant magnifique, mais que je vous inviterai à quitter un instant en pensée, et seulement en pensée, pour mieux nous transporter ensemble à Paris, au beau milieu du XVIIIe siècle, dans l'une des salles du collège jésuite Louis le Grand. Il s'agit du plus célèbre établissement d'enseignement du Royaume de France. Les maîtres y professent les belles lettres et l'art de dire, comptent Voltaire et plusieurs écrivains illustres parmi leurs anciens disciples. Et en cette année 1754, on peut apercevoir, parmi leurs élèves, le jeune marquis de Sade. Mais que peut-on bien lui enseigner? Quittons la France sur cette question et profitons de ce suspense, disons, pédagogique, pour traverser rapidement l'Atlantique. Nous sommes à Québec en janvier 1793 et les premiers députés de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada débattent du statut de la langue française dans une colonie anglaise. Malgré l'opposition de leurs collègues d'origine britannique, malgré surtout la connaissance plus approfondie des procédures dont ceux-ci font preuve, autrement dit, contre toute attente, l'éloquence des députés francophones, permet de préserver l'utilisation du français dans les travaux législatifs. Mais où donc, seconde question, où donc ces députés avaient-ils appris à parler, à prévenir une objection, à railler l'adversaire et à se gagner les cœurs et les esprits, bref, à persuader? Qu'il s'agisse du Collège Louis-le-Grand de Paris ou de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, ces deux questions, on l'aura deviné, concerne aussi bien l'histoire littéraire de la France que celle de la rhétorique, l'histoire politique du Québec que celle des formes oratoires et plus généralement littéraires. Dans les deux cas toutefois, leur intérêt tient en même temps au fait que chacune de ces questions rappelle et souligne avec insistance l'importance pour la recherche de fonds souvent méconnus et sans l'existence desquels ces deux questions resteraient à jamais autant de problèmes irrésolu. Ces fonds, ils forment une part essentielle des trésors patrimoniaux du Québec, c'est l'intitulé de cette série de conférences. Ce sont des fonds parfois menacés ou plus simplement ignorés et à l'inventaire duquel je travaille depuis maintenant 2 ans avec le concours de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Mais avant même que ne prenne forme ce projet d'inventaire sur lequel nous reviendrons Michel Brisebois et moi-même à la fin de cette intervention, je m'intéressais déjà, avant même que ne démarre ce projet d'inventaire, donc, depuis plusieurs années à ce patrimoine, en interrogeant notamment l'histoire de la rhétorique et de son enseignement, c'est-à-dire une tradition formée d'ouvrages et d'auteurs, de querelles et d'écoles, dont bien souvent les autres histoires ne parlent pas. À partir des très riches collections conservées dans les fonds anciens du Québec, mes travaux proposent donc essentiellement de repenser l'héritage de la rhétorique classique et en particulier le statut pédagogique éminent dont elle jouit au XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle. Définie par les anciens, les Grecs et les Romains, comme, c'est la définition classique de la rhétorique, comme un art de bien dire afin de persuader. La rhétorique réfléchit sur les mécanismes de la persuasion. La rhétorique classique, faut-il le rappeler, s'était donc donnée comme ambition d'allier une pratique concrète de la parole à une expérience réfléchie du discours. C'est à la fois une pratique et une théorie. En raison donc de cette dimension à la fois spéculative et empirique, elle présentait la particularité de conjuguer avec beaucoup d'originalité les notions théoriques qu'elle professait à des exemples dont la vocation était de susciter l'invention verbale. L'enseignement rhétorique à l'époque classique est mutatis mutandis, c'est-à-dire en changeant ce qu'il faut changer, à peu près l'équivalent contemporain de nos cours de creative writing. Tout l'enseignement rhétorique est porté vers l'invention d'un texte nouveau, à partir d'un modèle offert à l'imitation. C'est à ce titre que cet art d'instruire et d'émouvoir, ce serait une autre manière de définir la rhétorique, art d'instruire et d'émouvoir, de séduire et de plaire par la parole, a contribué de manière essentielle à former des générations de poètes et d'historiens, de dramaturges et de romanciers, d'essayistes et d'orateurs. De fait, si le XIXe siècle, surtout dans sa seconde moitié, et si la première moitié du XXe siècle a associé volontiers la rhétorique, disons, à un verbiage empoulé ou trompeur, c'est même le sens commun de rhétorique, l'un des plus grands mérites de la recherche de la seconde moitié du XXe siècle et du seuil du XXIe siècle a consisté à avoir montré l'importance de cette tradition séculaire, tant et si bien qu'aujourd'hui, comme le rappelait récemment Antoine Compagnon du Collège de France, la rhétorique, je le cite, a reconquis le prestige théorique et la pertinence pratique qui avaient été les siens depuis 25 siècles. Suscité entre autres par l'inquiétude que provoque dans la société contemporaine la manipulation de la parole au sein de l'univers de la communication médiatique, ce retour de la rhétorique à l'avant-scène des préoccupations contemporaines précède également d'un travail historique, toujours en cours, destiné à rendre de nouveau disponible cette tradition longtemps occultée, voire oubliée. C'est pourquoi le destin de la recherche rhétorique se trouve si étroitement lié à l'étude des fonds anciens, même lorsqu'il s'agit d'une rhétorique, disons, pratique, appliquée aux médias, par exemple. Et voilà également pourquoi je me suis, pour ma part, tout naturellement tourné vers les richesses oubliées de notre propre patrimoine lettré, afin de mieux voir en quoi la culture oratoire, dispensée dans les maisons d'enseignement, a nourri l'invention d'une culture littéraire, voire politique, c'est ce qu'on verra, au Québec. En rappelant le contexte au sein duquel les fonds anciens conservés au Québec sont susceptibles de jouer un rôle si considérable pour la recherche actuelle, pour toute recherche qui s'intéresse aux propriétés expressives et persuasives du discours, cette dernière remarque m'invite bien sûr à revenir aux deux questions que je posais au début de cette intervention, vous vous souvenez, à propos du marquis de Sade, que pouvait-il bien apprendre dans ces cours, et de nos premiers députés, que je me suis plu un peu malicieusement, vous vous en doutez, à réunir dans ce préambule. Reprendre tour à tour ces deux questions permettra non seulement de dissiper les perplexités qu'aurait pu occasionner le suspense auquel je vous avais un peu sadiquement abandonné, mais encore de procéder à un examen plus précis de collections anciennes qui, comme on le verra, pose le problème des frontières du livre à l'époque moderne. On entend par époque moderne en histoire la période qui va de la Renaissance, 16e siècle, à la Révolution, c'est-à-dire à la fin du 18e siècle. Revenons donc au collège jésuite Louis le Grand et demandons à nouveau ce que pouvait bien y apprendre le jeune marquis de Sade. De manière générale, l'enseignement qui dispensait alors les jésuites se rattachait à ce qu'on appelle le versant mondain de la tradition rhétorique classique. Tradition mondaine qui se propose surtout de former des jeunes gens capables d'agir sur le cours des affaires publiques par la seule vertu d'un art de séduire et de plaire par la parole ou par le geste. D'ailleurs, les cours de rhétorique dans les collèges jésuites se terminaient toujours par une pièce de théâtre qui apprenait cet art du geste éloquent. Rattaché à l'esprit des sociétés de cours, et de ce fait appelé à disparaître dès le début du XIXe siècle, cette rhétorique jésuite héritait des fastes de la sensibilité baroque, ce qui la rendait particulièrement attentive à la vocation théâtrale de l'éloquence, extrêmement bienveillante à l'égard de toutes les séductions exercées par le langage et par les artifices du langage. Toute cette tradition, enfin, voyait dans la langue l'instrument par excellence d'une mise en scène où la parole doit se faire, c'est l'expression qu'ils emploient toujours, ingénieuse, c'est-à-dire capable d'étonner, de surprendre par des jeux de mots imprévus ou encore par un foisonnement de pointes acérées, susceptible tantôt de séduire, tantôt de jeter le ridicule sur un adversaire. On verra des exemples tout à l'heure. Liée à la promotion de l'idée de séduction et de plaisir, qui traverse tout le XVIIIe siècle, c'est une des idées majeures, cette promotion du plaisir au XVIIIe siècle et de l'idée de séduction, en France comme ici d'ailleurs, contrairement à bien des idées reçues, on le verra. Le destin d'une pareille rhétorique fit en sorte que les préceptes dispensés par cet art de dire s'épanouirent bientôt dans la prose railleuse et enjôleuse des élèves formés à cette école, ou encore dans l'écriture provocante d'un marquis de Sade. Cela est assez bien connu, mais ce que l'on sait moins, c'est que les traités de rhétorique auxquels recouraient les maîtres professant à Paris, au Collège Louis-le-Grand, au milieu du XVIIIe siècle, sont aujourd'hui pour la plupart perdus en France, du fait notamment de l'extrême confusion dans laquelle la Compagnie de Jésus dut quitter le royaume au moment de son expulsion en 1764. Certes déplorable pour nos collègues français, cette perte n'est pourtant pas sans retour, car pour savoir ce qu'enseignaient les jésuites à Paris dans les années qui précédèrent leur expulsion, pour savoir ce qu'apprenait Sade sur les bancs d'école à cette époque, il reste encore une ressource à la recherche. C'est celle que lui offrent les fonds anciens conservés au Québec. On pourrait s'en étonner. Et pour débrouiller ce petit mystère, il faut d'abord songer que du nombre de ses condisciples à Louis le Grand, le marquis de Sade comptait un jeune Québécois, Charles-François Bailly de Messin, dont vous voyez le nom ici apparaître, qui était né à Varennes, près de Montréal, de parents qui disposaient d'une fortune suffisante pour envoyer leur fils étudier à Paris. Il faut ensuite rappeler que dans les collèges de l'époque moderne, de l'âge classique, les traités de rhétorique destinés à l'enseignement étaient manuscrits, comme celui-ci. C'est même l'un de ces manuscrits que ce jeune bailli de Messin devait rapporter de Paris, de Louis le Grand, pour ensuite lui donner le titre de, vous le voyez, « Rhetorica in Seminario Quebecensi, data anno 1774 », donc à l'occasion d'un cours qu'il donne au séminaire de Québec en 1774, manuscrit qui se retrouve depuis lors dans les fonds que conserve cette institution. Et vous avez à droite la liste en « Candidati Uiusque Rhetoricas » et c'est la liste donc des élèves de ce cours, Quebecensis, il venait de Québec, Mariano Politani, les Montréalais, hein, Ville-Marie. Bien. Or, le destin de ce manuscrit constitue un cas de figure exemplaire. La nature et le statut, voire le rôle auquel peut prétendre le traité manuscrit de rhétorique dans les circuits de diffusion du savoir à cette époque, doit en effet se comprendre à la lumière d'une constellation formée d'au moins trois termes. Composé, dicté et professé, ou pour mieux dire, vous voyez ici sur ce manuscrit, redacta, professa, auspiqué, hein, sous la surveillance de. Donc, rédigé, composé, donné par un maître chargé de cours, car telles sont les mentions qui figurent d'ordinaire sur la première page de ces manuscrits, habituellement rédigés en néo-latin, c'est-à-dire un latin de francophone. Et cette dernière observation, et on appelle maintenant plusieurs autres. À la suite de Françoise Velle, rappelons d'abord que la distinction entre manuscrit et imprimé n'avait pas au XVIIIe siècle le même sens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ou plus exactement hier, c'est-à-dire avant la multiplication des micro-ordinateurs, l'écriture manuscrite est réservée à des lettres personnelles, à des notes de cours ou de lecture, éventuellement à des brouillons, bref, à des avant-textes qui finissent généralement à la poubelle. Dans un cas comme dans l'autre, ces documents manuscrits sont uniques et ne sont pas destinés, au moins sous leur forme manuscrite, à une quelconque diffusion. Enfin, il n'y a pas de scripteur intermédiaire, c'est-à-dire ni secrétaire ni copiste. Avant-texte, brouillon, forme intime ou personnelle de la communication, texte autographe et unique, voilà autant de notions qui, au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, restent fréquemment étrangères à la nature et à la fonction du manuscrit. La seule apparence de nos traités de rhétorique en témoigne. Souvent reliés, calligraphiés, ornés de gravures, vous en avez ici une belle, celle de Cicéron à droite. Le manuscrit de l'époque moderne s'apparente davantage à un in-folio ou à un in-quarto, c'est-à-dire des ouvrages imprimés d'assez grand format, donc ressemble beaucoup plus à un imprimé qu'à un brouillon laborieux et autographe. Donc vous avez ici souvent dans ces traités de rhétorique québécois, vous avez de très belles illustrations, comme on peut le voir ici, ce qu'on appelle un arbre de Porphyre, qui sert à apprendre la logique. Et à droite, vous avez une petite vignette représentant Cicéron, la figure emblématique de la tradition rhétorique, l'orateur par excellence. Sous cette forme, le livre manuscrit concurrence l'imprimé, dont le coût reste généralement très élevé pendant tout le siècle, occupant même des domaines où il règne parfois sans partage. Dans la société pré-industrielle, en somme, la communication manuscrite fonctionne toujours en parallèle avec le monde de l'imprimé, et au sein de cet univers où la plume prévaut souvent sur le plomb, on retrouve les ouvrages les plus divers. Tantôt, ce sont des récits de voyage, des recueils de poésie ou des mémoires, œuvres de gens du monde dont le mépris aristocratique pour le petit commerce des imprimeurs leur ferait préférer la diffusion de quelques copies manuscrites à un ouvrage imprimé. Tantôt, il s'agit quelquefois de textes audacieux, libertins, séditieux, interdits, que la censure proscrit et qui ne saurait obtenir de privilèges royaux. Et c'est le cas de quelques manuscrits clandestins, dont notamment ce beau manuscrit conservé dans nos fonds de recherche à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a pour titre « Recherche sur l'origine du despotisme oriental ». Et c'est évidemment le despotisme régnant dans les pays d'Occident qui est visé. Ce sont enfin, et c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, des ouvrages pédagogiques, servant donc à l'enseignement ou d'érudition. C'est le cas, par exemple, de certains manuscrits, de dictionnaires manuscrits français-huron que conservent les jésuites à Saint-Jérôme, au nord de Montréal, ou encore des traités destinés à l'enseignement. C'est ce qui va nous intéresser, rédigés par des maîtres qui les dictent en classe à leurs élèves, ces derniers devenant dès lors les scripteurs de la plupart des textes aujourd'hui conservés dans les fonds d'archives. Jamais autographe, les textes appartenant au corpus québécois des traités de rhétorique se rattachent donc tous à cette tradition de la communication manuscrite, tradition à laquelle ils se réfèrent d'ailleurs volontiers et qui a toujours joui d'une assez grande autonomie à l'égard de l'imprimé jusqu'au seuil, voire pratiquement souvent jusqu'au milieu du 19e siècle. Je vais n'évoquer ici que deux cas à même d'illustrer les rapports complexes qu'entretiennent alors l'imprimé et le manuscrit. Le premier exemple est celui de la publication en 1835 d'un cours abrégé de rhétorique à l'usage du Collège de Montréal. Vous voyez aussi le tampon archive du séminaire de Saint-Hyacinthe, on y reviendra à propos de Saint-Hyacinthe. C'est le premier manuel de rhétorique imprimé au Québec. Le livre paraît sans mention d'auteur, comme vous le voyez. Particularité qui s'explique du fait que l'ouvrage n'est précisément rien d'autre que la reprise de toute une tradition manuscrite inaugurée par l'enseignement d'un certain Antoine Jacques Houdet, dont vous voyez le nom ici, point inférieur droit, prêtre sulpicien né en France et qui avait rédigé à son arrivée à Montréal en 1796 un cours de rhétorique à l'usage de ses élèves. Ah, vous voyez, donc là j'ai pris ici une copie de 1810, qui vient du collège de Nicolet, la première version de 1796, et elle culmine dans un imprimé en 1835. Le second exemple que j'aimerais soumettre à votre attention est celui de la rhétorica qu'un certain Charles Chauveau professe au séminaire de Québec au cours de l'année scolaire 1781-1782, comme vous le voyez ici. Si on lit ensemble le sous-titre, on voit « Auctore autem juxta plerosque RP, révérend père du Baudory ». Ou si l'on préfère en français, rhétorique composée par Charles Chauveau, mais très proche pour l'essentiel de celle du révérend père du Baudory. Telle est la mention donc qui figure dans le sous-titre de ce traité, mais telle est aussi la vitalité de la tradition manuscrite, dès lors que l'on songe que le révérend père du Baudory, auquel il est fait allusion ici, n'est l'auteur d'aucun traité imprimé. Aussi, c'est la tradition manuscrite qui se transmet et qui se recopie de traité en traité. Aussi, ne faut-il jamais manquer d'insister sur le fait, par conséquent, que le traité manuscrit reconstitue davantage qu'un simple appoint aux connaissances que nous tirons par ailleurs des sources imprimées dès lors qu'il vient le temps de se proposer de faire une histoire culturelle du Québec. Voilà, en somme, le contexte, vous avez vu, éminemment atlantique, où on passe de la France à Québec, de la France à Montréal sans cesse, le contexte atlantique dans lequel s'inscrit la diffusion des traités manuscrits de rhétorique destinés à l'enseignement. Et il va sans dire que je ne prétends pas aujourd'hui révéler pour la première fois l'existence de ce corpus formé d'une quarantaine de traités disséminés à travers le Québec. En effet, certains historiens de l'éducation n'ont pas manqué jusqu'à ce jour d'en mentionner quelques-uns, ne serait-ce que pour souligner l'importance de la rhétorique dans l'enseignement. Dans le Québec du XVIIIe siècle et encore du XIXe siècle, la rhétorique représentait une discipline d'autant plus fondamentale que le séminaire de Québec avait réglé tout son plan d'études sur ce qu'on appelle le ratio studiorum, littéralement la règle des études, qui est la pièce maîtresse de la pédagogie jésuite et pour laquelle la classe de rhétorique avait pour fonction de venir couronner le cursus scolaire, suivant une idée très précieuse de la pédagogie jésuite. Les jésuites considéraient qu'il fallait enseigner tous les savoirs et terminer par la classe de rhétorique en se disant que tout savoir, s'il ne peut pas s'incarner dans une parole capable de bouleverser les cœurs et les consciences, est un savoir inutile. Et c'est la raison pour laquelle la rhétorique venait couronner le cursus scolaire. Idée précieuse que le ministère de l'Éducation, auquel le ministère de l'Éducation devrait peut-être songer. Toutefois, les historiens de l'enseignement connaissent souvent mieux l'évolution administrative et sociale de l'institution scolaire que l'histoire des disciplines qu'on y enseigne. C'est ainsi que si certains textes appartenant au corpus québécois des traités de rhétorique sont parfois mentionnés, leur étude reste d'ordinaire périphérique quand celle-ci ne se réduit pas simplement à quelques notes infrapaginales, bien souvent incidentes. Aussi ne doit-on pas s'étonner si de tels textes n'ont jusqu'à ce jour fait l'objet d'aucune étude qui s'efforcerait de montrer en quoi la culture oratoire dispensée dans les maisons d'enseignement fut véritablement et sans cesse appelée à nourrir l'ensemble de la production littéraire et de la vie intellectuelle et politique du Québec. Et c'est là, me semble-t-il, l'un des principaux et des premiers enjeux de cet inventaire du patrimoine livresque d'Ancien Régime auquel nous travaillons de concours avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec. De fait, l'étude de semblables traités pose un problème plus général, dans la mesure où l'histoire de l'enseignement de la rhétorique au Québec invite en même temps à s'intéresser à ce que j'appellerais l'économie de transfert des savoirs, c'est-à-dire l'échange de connaissances, entre la République des lettres européennes et le Nouveau Monde. Cette question me semble d'autant plus incontournable que ce sont précisément les bibliothèques privées ou celles des anciens collèges qui nous intéressent dans le cadre de ce projet, qui ont été les vecteurs privilégiés de ce transfert culturel dont procède la transmission de la culture oratoire et, beaucoup plus généralement, la formation de la culture savante, voire politique, on le verra, au Québec. Placés sous ce jour, ces trésors patrimoniaux conservés chez nous deviennent dès lors l'un des principaux lieux de mémoire, pour employer une expression fort en vogue de nos jours, à partir duquel il importe de repenser notre histoire culturelle. L'étude de ces textes offre même l'immense intérêt de faire envisager l'histoire de la rhétorique française, voire européenne, au prisme du Québec, prisme qui invite à un renversement des perspectives habituelles et qui, à ce titre, réalise sans doute le rêve secret de tout québéciste. Aux États-Unis, déjà, des études comme celles qu'ont menées des chercheurs comme Warren Guthrie ont fort bien montré en quoi la rhétorique dans les universités américaines des 18e et 19e siècles suit très fidèlement l'évolution qu'on observe en Grande-Bretagne, si bien que son enseignement tend à l'Europe un miroir grossissant qui, en schématisant ses tendances essentielles, les révèle au plus clair. Il en va exactement de même au Québec. Dans les institutions encore jeunes de la Province of Québec, c'est le nom que prend la Nouvelle-France après la cession à l'Angleterre, donc dans les institutions encore jeunes de la Province of Québec, puis du Bas-Canada, l'enseignement se fixe en effet autour de trois grandes traditions que la multitude des textes et des influences entremêlent très souvent en France, mais qui, ici, sont fort bien différenciées. Au Québec, chacune de ces traditions se distingue même des autres avec d'autant plus d'évidence qu'elle est incarnée par la figure d'un professeur révéré dont l'ascendant s'exerce sur plusieurs générations d'élèves et de maîtres, lesquels reconduisent simplement dans leur propre cours l'enseignement qu'ils ont reçu. Mais dans un tel contexte, quel choix s'offre donc aux jeunes maîtres québécois de rhétorique qui, pour la première fois, s'exercent au magistère de la parole ? Alors, en prolongeant l'une ou l'autre des traditions dans lesquelles s'inscrit la formation qu'il a reçue, ce jeune professeur va tantôt privilégier les exemples français, tantôt les exemples latins. Il va tantôt insister sur la séduction exercée par l'emploi des figures du discours, ou tantôt, au contraire, sur l'expression pathétique, voire sublime, des passions. Enfin, il fera chérir à ses élèves tantôt l'ampleur de vastes phrases qu'on appelle périodes en rhétorique, de vastes phrases bien rythmées, ou encore la concision d'un trait polémique, concis, bref et satirique. En somme, en répétant son cours d'études, tout jeune maître de rhétorique se trouve à rejeter certaines options, à reproduire certaines autres et à perpétuer de la sorte une tradition dont le propre consiste à engendrer une série de textes homologues appartenant tous à une même lignée. C'est pourquoi il est relativement aisé de regrouper les quelques 40, ces quelques 30 traités de rhétorique québécois qui nous ont été transmis en trois tendances, voire en trois écoles bien distinctes. Et là, c'est comme on dit en rhétorique, ma disposition pour le reste de l'exposé, c'est-à-dire la disposition des matières. Alors, premièrement, la tradition jésuite, déjà rapidement évoquée à propos de Bagny de Bessin, on va y revenir. La deuxième grande tradition, celle de l'Université de Paris. Et enfin, la tradition sulpicienne, essentiellement montréalaise, je dirais montérégienne, qui concerne Montréal, Saint-Hyacinthe, Nicolet. Alors, reprenons. Donc, en même temps, et selon leur sensibilité propre, comme on le verra, ces trois écoles favorisent prise de parole et appropriation de l'espace public, du moins si l'on en juge par les écrits pamphlétaires des maîtres de rhétorique eux-mêmes, ou encore par la prose militante et l'éloquence parlementaire de leurs anciens élèves. C'est là ce que donne à penser, du moins, l'exemple de nos premiers députés que j'évoquais au début, et dont l'éloquence témoigne d'une formation qui précisément les a éduqués et formés à ce que j'appellerais l'intelligence de la parole. D'ailleurs, dans les archives, dans ce qui nous reste des témoignages des premiers débats parlementaires, dès lors qu'un député n'a pas reçu de formation rhétorique, d'ordinaire, le greffier note, n'intervient jamais à la Chambre. À ce titre, les traités québécois de rhétorique donnent à voir les conditions de surgissement d'une parole vivante, tous les mots, toutes les notions apprises en classe, venant sans cesse féconder le présent d'un discours ou d'un pamphlet, d'une lettre ou d'un essai. Mais examinons ensemble quelques exemples. Je vais donc en retenir trois écoles, trois exemples, qui chacun à leur manière illustrent, me semble-t-il, à merveille l'une ou l'autre de ces trois grandes écoles qui structurent l'enseignement oratoire au Québec pendant toute cette période. Alors, mon premier exemple se rattache donc à la tradition jésuite, à laquelle nous avons déjà eu l'occasion de nous attarder tout à l'heure, à propos de son principal représentant au Québec, Charles-François Bailly de Messin. Cette tradition s'enracine, on l'a vu, dans l'enseignement que les jésuites professent au Collège Louis-le-Grand de Paris, comme le montre à l'évidence la confrontation de ces deux textes. Alors, le premier, celui de gauche, est tiré d'un cours d'un certain Père de la Sente, l'un des très rares manuscrits du genre conservés en France. Il date de 1726. En voici un extrait consacré aux figures du discours, « De figuris sententiarum », des figures de pensée. Et voyez, caput primum, chapitre premier, figurae ad docendum idoenae, figure propre à instruire. Le second extrait que vous voyez ici à droite est tiré cette fois du cours que Bailly de Messin enseigne au séminaire de Québec en 1774. Et si on le lisait ensemble, on verrait que les textes sont à peu près identiques. Vous voyez, de figuris sententiarum, le texte est le même, en figurae sententiarum in tres velitu classes distributi. Les figures de pensée peuvent être classées en trois catégories. Bien. Alors, mais confrontés de la sorte, le traité parisien et le traité québécois n'offrent pas simplement un exemple probant de transfert culturel. Hein, là, c'est visible. La leçon est la même. Car il met aussi en évidence une dimension fondamentale de cet enseignement. C'est pour ça que j'ai choisi cette page. Le rôle déterminant accordé aux figures du discours, c'est-à-dire à tous ces tours et ces détours que l'on peut donner et faire emprunter à une phrase. Conçu ici, dans ces cours, ces figures comme l'instrument par excellence d'un art de dire et surtout de railler sous le voile d'une allusion ironique. Bailly de Messin, du reste, illustrera lui-même son enseignement et cet art de la feinte, à l'occasion notamment d'un pamphlet qu'il publie en 1790, vous en avez un exemple ici, la première page, dans la Gazette de Québec de 1790. Dans ce texte, il entend défendre, malgré les objections de son supérieur hiérarchique, Monseigneur Hubert, évêque de Québec, le projet de fondation d'une université libre sur le plan religieux. Proposition hardie. En cette circonstance périlleuse, puisqu'il va s'opposer à son supérieur hiérarchique, l'artifice tout jésuite auquel recourt Bailly de Messin consiste à attribuer les objections qu'avait formulées publiquement l'évêque contre ce projet d'une université libre sur le plan religieux, une sorte d'UQ avant la lettre. Les objections, l'évêque s'est élevé contre, et il attribue ses objections dans ce pamphlet à un prétendu rédacteur, il l'appelle ainsi, qui aurait eu la témérité de les faire paraître sans le consentement de l'évêque et de les publier, nous dit Baguine Messin, sous ce nom si vénérable. Pareille précaution ne manque pas d'adresse, puisqu'elle permet à la fois d'affecter du respect pour son supérieur, ça peut être très expédient, et de mieux l'accabler sous la figure absolument chimérique, inventée de ce rédacteur qu'on nous présente comme un imposteur fanatique et superstitieux. Alors, contre ce prétendu rédacteur, derrière lequel il dissimule habilement les attaques contre son supérieur, Baguine Messin multiplie, très ironique, tout à fait dans l'esprit de son enseignement et dans l'enseignement qu'il donne à Québec. Et voici un exemple, c'est le meilleur de tout le texte, c'est pour ça que je l'ai retenu, dont la force tient précisément à la force d'une simple figure de rhétorique. Voici l'exemple. « Quant au rédacteur, je le crois convaincu de son insuffisance et de sa trop grande suffisance. » Vous voyez à quoi tend cet enseignement. Alors, à vrai dire, des traits d'esprit conçus dans ce goût pourraient aussi bien se retrouver sous la plume d'un Voltaire, ou même d'un Sade. Aussi, avec cet usage polémique des figures du discours, ici, en termes techniques, une paronomase, qui donne à la phrase, on le voit, du mordant, de l'élégance et de la concision. Voilà sans doute résumé le mieux le caractère essentiel de nos rhétoriques jésuites, qui sont tout entières tournées vers la production de ces traits, dirions-nous aujourd'hui, presque publicitaires dans leur concision et leur brièveté assassine. Mon second exemple se rattache à la deuxième grande tendance qui s'exprime dans l'enseignement oratoire, laquelle dérive d'une tradition issue de l'Université de Paris. Cette seconde école institue une tradition appelée à régner sans partage au séminaire de Québec dès le début du 19e siècle, puis à s'y maintenir avec une belle constance jusqu'au milieu des années 1830. Elle trouve son principal représentant en la personne d'un certain François Le Guerne, dont je reparlerai, puis de Joseph-Octave Plessis, nom célèbre de l'histoire québécoise du 19e siècle, qui a d'abord été maître de rhétorique et ensuite évêque de Québec. C'est à lui notamment que nous devons la célèbre doctrine dite de la conquête providentielle, qui disait que, ma foi, heureusement, les Anglais avaient fait la conquête de la Nouvelle-France, sinon nous aurions été exposés, et en particulier le clergé catholique aurait été exposé aux affres de la Révolution française. À la différence de la tradition jésuite, cette tradition dérivée de l'Université de Paris se caractérise par le souci que j'appellerai ici, disons, néoclassique, on verra davantage ce que j'entends par là, le souci néoclassique de renouer par-delà ces petits jeux de mots railleurs dont vous avez eu un exemple, avec les grandes formes de l'éloquence, et notamment avec ce qu'on appelle la période, c'est-à-dire une phrase ample avec une architecture bien, bien forte, donc avec l'art de la période oratoire et donc la pratique d'une prose ample et qu'on appelait nombreuse parce que bien rythmée, imitée de Bossuet et surtout de Cicéron. De fait, dès le début du 19e siècle, on retrouve partout au séminaire de Québec, et je dirais à Québec, la trace de ce néo-cicéronianisme, de ce retour à Cicéron, qui du reste est en parfait accord avec l'esthétique néoclassique qui règne alors dans la capitale de la colonie. C'est d'exemple, pensez à la cathédrale de Québec, aussi bien catholique qu'anglicane. Les deux sont dans ce goût néoclassique de retour aux formes antiques qui caractérise le goût dominant dans la colonie et en Europe d'ailleurs à la fin du 18e siècle. Je n'évoquerai que deux manifestations de ce fait, de ce néo-cicéronianisme québécois du début du 19e siècle. Le premier étant emprunté à la peinture. Il s'agit d'un très beau portrait de Cyprien Tanguay, l'auteur du dictionnaire généalogique canadien-français, représenté avec brio par Antoine Plamondon, l'un des grands peintres du 19e siècle québécois, dans son costume de séminariste. Le poing gauche reposant sur un ouvrage. Alors là, je me demande de me croire sur parole, sur le dos, c'est écrit Cicéron. Alors qu'il écrit de la main droite, Cicero, Cicero. Alors vous voyez donc l'insistance ici. La seconde manifestation de cette sensibilité cicéronienne est la prose du plus célèbre orateur québécois, et de l'homme politique québécois sans doute le plus célèbre également, la prose de Louis-Joseph Papineau, lui-même formé à l'art oratoire par un élève de Joseph Octave Plessis. Tribun éloquent, comme vous le savez, figure par excellence des révolutions libérales de 1837 et 1838 au Bas-Canada, Papineau, même au sein des assemblées révolutionnaires les plus tumultueuses, restera fidèle sa vie durant à ce style néoclassique, c'est-à-dire à une prose s'organisant toujours en de larges périodes, imitant la vaste architecture de la phrase cicéronienne. C'est ce que montre entre mille exemples, n'importe quelle page de Papineau l'illustrant, mais entre mille exemples, j'en ai retenu un, le rythme de la phrase, sur laquelle s'ouvre l'adresse à rester fameuse à la Confédération des six comtés au peuple du Canada. Je reviens juste en arrière pour vous montrer, ici, vous voyez le cours de rhétorique qu'a suivi Papineau. Rhetorica, Joseph Octavie Plessis, donc donné par le cours, par Joseph, conçu par Joseph Octave Plessis, data par un certain Pierre Bossu, Petro Bossu, qui était le chargé de cours, en quelque sorte, qui livrait l'enseignement. Et vous voyez ici J. Papineau dans la liste des élèves inscrits à ce cours. Très souvent, les contemporains disaient Joseph simplement, comme son père d'ailleurs, qui portait le même nom. Bien. Alors, ce n'est donc, comme plusieurs exemples tirés de la prose de Papineau, j'en ai retenu un, la célèbre adresse à la Confédération des six comtés au peuple du Canada, prononcée par Papineau un mois avant la bataille de Saint-Denis à l'automne 1837. Lisons cette longue phrase, ce n'est qu'une seule phrase, ensemble. Quand un peuple se trouve invariablement en butte à une suite d'oppressions systématiques, malgré ses vœux exprimés, de toutes les manières reconnues par l'usage constitutionnel, par des assemblées populaires et par ses représentants en Parlement, après mûre délibération. Fin du premier membre de la période, c'est ce qui fait le rythme. Quand, vous voyez, le premier membre commence par quand, le second par quand, c'est ce qui marque le passage d'un membre à l'autre. Quand ces gouvernants, au lieu de redresser les maux divers qu'ils ont eux-mêmes produits par leur mauvais gouvernement, ont solennellement enregistré, proclamé leur coupable détermination de saper et de renverser jusqu'aux fondations de la liberté civile, membre 2, on est au milieu de la période, ils, et c'est là souvent que le sujet du verbe principal arrive, il devient impérieusement du devoir du peuple de se livrer sérieusement à la considération de sa malheureuse position, des dangers qui l'environnent. Trois, et là c'est la chute de la période, et par une organisation bien combinée de faire les arrangements nécessaires pour conserver intacts leurs droits de citoyens et leur dignité d'homme libre. Fin de la période. Alors, vous voyez, phrase au large mouvement, le large mouvement de cette phrase est tout à fait caractéristique de la prose de Papineau, où les arguments se succèdent suivant le rythme ample, d'une période bien rythmée, on dit nombreuse en termes de rhétorique, qui elle-même est composée donc de quatre membres étroitement liés entre eux et dont le sens, en restant suspendu à chaque fois, se dénoue à la fin en faveur d'une revendication éclatante des droits du citoyen. Alors, vous voyez, c'est ce qu'il apprenait à faire en classe. Dans ce cours de rhétorique, on a des exemples, par exemple, construire une période sur le modèle de Cicéron. On leur donne un exemple de Cicéron, on leur demande ensuite de construire une phrase sur ce modèle. À milieu, enfin, de ces deux premières traditions rhétoriques, où triomphe tantôt l'abondance cicéronienne, on vient d'en voir un exemple, tantôt l'ingéniosité et la brièveté d'un trait acéré, tradition jésuite, mon troisième et dernier exemple se rattache à notre troisième école qui, elle, en appelle plutôt à l'éloquence du cœur. Hostile au détour de l'artifice oratoire à la manière jésuite, cette rhétorique de l'inspiration et du naturel, je crois qu'on pourrait la qualifier ainsi, rhétorique de l'inspiration et du naturel, est d'abord l'héritière de la sensibilité néo-augustinienne qui, depuis Port-Royal, traverse tout l'âge classique pour enfin se confondre ses élans avec ceux du premier romantisme dès le début du XIXe siècle. Au nom de la simplicité des mouvements du cœur, la réflexion sur la rhétorique qui s'élabore dans cette mouvance communie avec les positions que défend par exemple un Fénelon, l'un des plus célèbres penseurs français de la rhétorique du début du XVIIIe siècle, notamment dans ses dialogues sur l'éloquence, et avec les sources antiques de Fénelon, qu'il s'agisse de Saint-Augustin ou encore du traité du sublime d'un auteur nommé Longin, on dit le pseudo-Longin parce qu'on ne sait plus finalement qui a écrit dans l'Antiquité ce traité. Avec l'irruption de cette éloquence du cœur, qui se moque de l'éloquence, suivant la belle formule de Pascal, d'une éloquence du cœur qui se moque de l'éloquence, c'est-à-dire de ses détours étudiés, de ses calculs, s'affirme dès lors une rhétorique de l'inspiration qui va sans cesse chercher à approfondir la dimension expressive, voire pathétique, du langage. Dans les collèges français, cette sensibilité s'exprime, comme l'a montré notamment un chercheur britannique du nom de Peter Frantz. Dans les collèges français, cette sensibilité va s'exprimer notamment dans l'enseignement rhétorique que dispensent les prêtres de l'oratoire, les oratoriens. Au Bas-Canada, l'esprit de l'oratoire se prolonge dans l'œuvre notamment des sulpiciens du Collège de Montréal et de leurs disciples du Collège de Nicolet et de Saint-Hyacinthe. Vous avez vu d'ailleurs tout à l'heure, c'était une rhétorique de Houdet, on voyait le sceau, Collège de Saint-Hyacinthe. L'enseignement de la rhétorique dans ces trois institutions, offrant un nouvel exemple d'ailleurs de la manière dont se différencie au cours de la première moitié du 19e siècle, Québec d'une part et la Montérégie d'autre part. Qu'on en juge d'après la carrière et l'enseignement donc de Antoine Jacques Houdet, prêtre sulpicien né en France en 1763, mort à Montréal en 1826, émigrant entre-temps au Québec pour fuir la Révolution. À la différence des rhétoriques latines que l'on professe au séminaire de Québec, Houdet rédige en français le cours qu'il livre à ses élèves en 1796. Inscrite dans une mouvance néo-augustinienne et en parfait accord avec l'esprit oratorien que j'ai essayé de caractériser rapidement, cette rhétorique en appelle sans cesse à l'inspiration et à l'exaltation du sentiment. C'est ce dont témoigne notamment un passage qui évoque, je le cite, « Ce qui est requis dans la personne de l'orateur, c'est le titre du chapitre, ce qui est requis dans la personne de l'orateur pour exciter les passions. La première qualité que le texte retient étant la sensibilité. » Houdet poursuit en ces termes. Vous avez le texte devant vous. Celui qui possède cette précieuse qualité, la sensibilité, ne manque jamais d'éloquence. Il exprime tout ce qu'il sent avec vivacité et avec énergie. De son cœur partent ces élans pathétiques et sublimes qui ravissent les auditeurs et qui les mettent comme hors d'eux-mêmes. Car le cœur, dit Quintilien, théoricien antique de la rhétorique, est le siège, le foyer de l'éloquence. Pectus est quod dissertos facit. Alors le cœur, pectus, hein, ou les pectoraux, hein, la poitrine est ce qui rend le discours disert, éloquent. Et c'est de lui, du cœur, que viennent les grandes comme les touchantes pensées. Nous en avons la preuve dans les personnes qui, dans la douleur d'une perte récente, de la mort, du deuil, disent les plus belles choses du monde, uniquement par la force du sentiment, sans le secours de l'étude et de la culture de l'esprit. Cette attitude va ensuite s'illustrer, qui valorise éminemment, comme vous le voyez, cette éloquence du cœur. Cette attitude va ensuite, vous n'auriez jamais trouvé des passages semblables dans la rhétorique qu'on enseigne à Québec. Jamais on ne trouve une telle exaltation du sentiment. Cette attitude va ensuite s'illustrer chez certains des meilleurs élèves de Houdet. Et à cet égard, le parcours d'un certain Édouard-Étienne Rodier est exemplaire. Rodier, c'est un tribun passionné. C'est le représentant par excellence de la mouvance radicale du Parti patriote. Il est blessé au combat contre les troupes britanniques pendant la période insurrectionnelle. Et ce Rodier pratique un style véhément énergique, celui qu'il a appris, où se presse tour exclamatif, suspension pathétique, et qui montre à l'évidence que cette éloquence du cœur, enseignée par ses maîtres sulpiciens, eut aussi une dimension libérale. Qu'on en juge d'après la péroraison d'un discours qu'il prononce à Montréal en 1835 au banquet de la Société Saint-Jean-Baptiste. Je vous donne l'extrait. Ah, je voudrais avoir, vous allez voir, c'est très différent de Papineau ou de Bailly de Messin, c'est un tout autre monde. Ah, je voudrais avoir une voix assez forte, assez éloquente pour faire comprendre aux tyrans combien leur sort est pitoyable. Je voudrais leur faire comprendre combien il est doux de faire le bien du peuple, d'être honoré de sa confiance, d'être entouré de son estime. Fils d'un humble et honnête plébéien, né du peuple, vivant avec le peuple, désirant mourir au milieu du peuple. Et là, le journaliste de la Minerve qui rapporte ce discours note ici interruption prolongée par de vifs applaudissements. Je ne puis mieux terminer mes observations qu'en répétant le peuple, source légitime de tout pouvoir politique. On voudrait bien remarquer à quel point, dans un passage comme celui-ci, suspension, répétition, exclamation, élan de la passion, servent l'expression de cette exaltation plébéienne, tout comme au néo-cicéronianisme, voire au néo-classicisme des rhétoriques professées au séminaire de Québec, répondait l'ample période patricienne, seigneuriale, d'un Louis-Joseph Papineau. À la lumière de ces quelques exemples, on comprend sans doute mieux en quoi le patrimoine que constituent les traités de rhétorique intéresse au premier chef, suivant la belle expression de mon collègue de l'UQAM, Bernard Andrès, l'archéologie du littéraire au Québec. Cette archéologie permettant également de dégager les réseaux à la faveur desquels l'enseignement de la rhétorique a rayonné en formant à la pratique d'une parole citoyenne et éloquente plusieurs générations, les premières générations de lettrés québécois. À cet égard, notre corpus, on le voit, offre de multiples avantages. De fait, si dans les collèges jésuites de France, par exemple, existaient des registres où étaient consignés les noms des élèves inscrits, ceux-ci, comme on le sait, se sont souvent perdus, notamment, je l'évoquais, en raison des circonstances qui ont présidé à l'expulsion des jésuites de France ou encore des détériorations subies au moment de la Révolution. Au Québec, en revanche, nous disposons toujours de la liste des élèves. Vous en avez vu une tout à l'heure, où figurait le nom de Louis-Joseph Papineau. Laquelle figure donc d'ordinaire au début ou à la fin des manuscrits qui nous sont restés. De telles listes constituent, vous vous en doutez bien, une source extrêmement précieuse de renseignements dans la mesure où elles sont susceptibles de servir de point de départ à un projet de recherche qui entend retracer les réseaux de transfert du savoir et à mesurer l'incidence d'une formation dans le parcours intellectuel d'individus ou de groupes d'individus. Dans cette perspective, l'année de rhétorique constitue à la fois le point culminant, on l'a dit, du cursus scolaire, au cours duquel un même maître, et c'est ce qu'il faut bien se rappeler, a accompagné son élève pendant déjà 5 ou 6 ans. Et en même temps, ce cours de rhétorique constitue une formation initiale orientée vers une prise de parole au sein de l'espace social et politique. Il s'agit véritablement d'ailleurs dans ces collèges d'une forme de mentorat. Je pense par exemple à un certain Sabin Raymond qui a enseigné la rhétorique au collège de Saint-Hyacinthe et qui a reçu sa formation chez les Sulpiciens à Montréal. Dans sa correspondance, il dit c'est grâce à mon maître de rhétorique que j'ai lu Chateaubriand pour la première fois, ce qui n'est évidemment pas étonnant que ce soit à Montréal dans ce cours de rhétorique orienté vers l'expression du pathos que les élèves découvrent pour la première fois Chateaubriand. Donc, c'est, on l'a vu, de semblables parcours dont témoignent, entre autres, de semblables parcours pédagogiques, mais qui conduisent vers une prise de parole publique, dont témoigne donc la carrière d'un Papineau. Il avait également, outre la rhétorique de Plessis à Québec, un mentor, qui était Jérôme Demers, l'introducteur de l'architecture néoclassique à Québec, ou d'un Rodier, on l'a vu avec les Sulpiciens. Mais aussi également, ce sera mon dernier exemple, peut-être du plus grand écrivain québécois du 19e siècle, Philippe Aubert de Gaspé, seigneur de Saint-Jean-Port-Joli, dont voici par exemple une page tirée de ses remarquables, très remarquables mémoires, à mon sens l'une des grandes œuvres du corpus québécois, toutes périodes confondues, alors qu'il évoque l'atmosphère dans ses mémoires de ses années de collège. Et à l'occasion de ce passage, la figure de Louis-Joseph Papineau. Relisons ensemble et nous verrons à quel point cette culture oratoire imprègne la formation reçue. Alors c'est tiré donc d'une belle édition qui vient de paraître, à laquelle j'ai travaillé avec mon collègue de l'Université du Québec à Rimouski, Claude Lacharité. Alors, les maîtres menaient de temps à autre les pensionnaires du petit séminaire de Québec aux séances de la Chambre d'Assemblée, pendant les sessions du Parlement provincial. Et comme les enfants aiment à singer tout ce qu'ils voient, il fut décidé que nous aurions aussi notre Chambre d'Assemblée. On commença par les élections, que d'intrigues, que de corruption même, pour faire élire un candidat de notre choix. Le Parti conservateur, tremblant pour l'élection de son candidat, proposa de faire voter les ecclésiastiques du grand séminaire. Celui de l'opposition, dont Papineau était le chef, combattait de toutes ses forces l'introduction de cette clause dans notre charte. Le grand jour de l'élection arrivé, les deux candidats firent les discours d'usage et promirent, comme on le fait de nos jours, plus de beurre que de pain au seau. Et j'étais probablement du nombre, qui ajoutait foi à leur discours. L'âge d'or allait renaître pour les écoliers. Plus de pensum, plus de férule, mais des confitures à tous les repas. Papineau, alors âgé de 13 à 14 ans, monta sur le Hustings, la tribune aux harangues, et dans un discours qui dura près d'une demi-heure, foudroya notre malheureux candidat. Je l'ai souvent entendu depuis tonner dans notre parlement provincial contre les abus, contre la corruption, l'oligarchie, mais je puis certifier qu'il n'a jamais été plus éloquent qu'il le fut ce jour-là. Les prêtres du séminaire s'écriaient « C'est son père, c'est tout son père, quel champion pour soutenir les droits des Canadiens lorsqu'il aura étudié les lois qui nous régissent. » La première impression que fit sur moi l'éloquence de M. Joseph Papineau ne s'est jamais effacée de ma mémoire. Bel exemple, hein, extrêmement éloquent, de la place qu'occupe la formation oratoire dans l'enseignement. Mais depuis l'enseignement d'un bailli de Messin à Québec, ou d'un Plessis, ou d'un Houdet à Montréal, jusqu'au discours proféré du haut des hustings, de la tribune de l'orateur, cette formation oratoire, dont cette belle page illustre l'importance et que permet précisément d'approfondir, hein, ce que j'essayais de vous montrer et de faire avec vous ce soir, c'est en quelque sorte de visiter, grâce à ces fonds patrimoniaux, les coulisses de ce qu'on nous expose ici, du récit qu'on nous fait dans cette page. Donc, cette belle page donc, illustre l'importance. Nos fonds patrimoniaux permettent de comprendre l'importance de cette formation oratoire. Eh bien, toute cette culture a aussi, et là nous allons bientôt passer vers la seconde partie de l'intervention de ce soir, a aussi une dimension qui intéresse notamment la bibliothéconomie, et en particulier les procédures de catalogage du livre. Comme le montre très bien ce dernier exemple que je voudrais évoquer avec vous ce soir, celui d'un professeur de rhétorique dont j'ai mentionné très rapidement le nom, François Legerne, qui professe à l'automne 1768 le tout premier cours donné au séminaire de Québec et qui instaure un enseignement qui, transmis par plusieurs générations de disciples à travers une tradition manuscrite extrêmement vivace et vivante, va exercer une influence déterminante sur la formation littéraire des premiers lettrés québécois, en vrai dire jusqu'à Louis-Joseph Papineau, qui va hériter de cet enseignement, et Philippe Aubert de Gaspé, dont on vient de lire un extrait. Alors, donc, reprise avec une belle constance depuis les lendemains de la conquête, en 1763, jusqu'à l'époque des insurrections, de 1837, cette école procède cependant elle-même d'une riche tradition française, procède d'une tradition française au sein de laquelle joue un rôle essentiel la figure d'un certain Balthazar Gibert, auteur peu connu du reste, qui fut un recteur rattaché au collège Mazarin de Paris et trois fois recteur de l'université de Paris. Or, ce rôle de Gibert, qui est à quelque sorte à l'origine de l'enseignement oratoire au Québec, ce rôle de Gibert, si le chercheur, moi j'avais lu sa rhétorique ou les règles de l'éloquence qui date de 1730, et puis bon, le chercheur moderne, quand il lit les rhétoriques québécoises, surtout celles qui procèdent de cette tradition de Legerne, vous voyez son nom ici à la Cure de Québec, bibliothèque de M. Legerne à droite. Alors le chercheur moderne, quand il lit Legerne, bon, on peut avoir le sentiment, on peut soupçonner, en raison des allusions à cet auteur, à Gibert, des allusions qui perdent sans cesse sous la plume de notre regard, on peut présumer qu'il y a une influence. Mais son sentiment ne peut véritablement devenir une conviction assurée que du moment où un bienheureux ex-libris, comme vous en voyez un ici, lui apprend que, précisément, ce Legerne, qui est aux origines de l'enseignement de la rhétorique au Québec, possédait à Québec un très bel exemplaire annoté de sa main de la rhétorique de son maître Gibert. Alors, vous voyez ici, par M. Gibert, et vous voyez la signature de Legerne ici, et son ex-libris de surcroît à droite. On mesure alors toute l'importance de l'ex-libris, qui peut en pareil cas servir de socle à la formulation d'une hypothèse de recherche sur les sources de la culture savante au Québec. On sait qui a lu quoi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans notre travail d'inventaire, qu'on va bientôt évoquer, nous avons accordé la plus grande attention à cette question, ajoutant même à chaque notice bibliographique, comme on le verra, une image numérisée de ces marques d'appartenance, de manière à pouvoir reconstituer sur cette base ce qui pourrait être, par exemple, pour un lettré québécois du XVIIIe et du XIXe siècle, sa Bibliotheca Rhetorum, ou si vous préférez, sa Bibliothèque des orateurs. Cette dernière observation, sur laquelle je vais conclure, pourrait me tenir lieu de conclusion. On me permettra néanmoins d'y ajouter une remarque. En rappelant, comme je viens de le faire, ce parcours qui conduit d'un simple ex-libris jusqu'à l'archéologie d'une dimension somme toute importante de la constitution de la culture savante au Québec, peut-être s'apercevra-t-on du même souffle qu'il est sans doute peu d'héritage qui nous concerne de plus près que ce patrimoine lettré, et en particulier, je dirais, ce patrimoine rhétorique, et dont il soit le plus urgent de dresser l'inventaire, surtout dans un contexte, le nôtre, celui du début du XXIe siècle, où hommes et femmes politiques semblent devenus incapables de faire entendre une parole citoyenne qui puisse toucher les cœurs et transformer les consciences. Je vous remercie. Théophile. Alors, Michel Brisebois, spécialiste du livre ancien à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, va venir se joindre pour la deuxième partie de cette présentation. J'ai fait allusion à plusieurs reprises dans le cadre de la conférence à ce projet d'inventaire de l'imprimé européen ancien au Québec. Et Michel, sans plus tarder, bonsoir. Il y aura des notices qu'on pourra voir à la fin de cet exposé, que nous ferons d'ailleurs ensemble.
Voilà. Alors, malheureusement, je n'ai pas l'éloquence de mon illustre confrère, mais j'ai quand même tenté le coup. Marc-André a conclu le portrait qu'il vient de faire des origines de la culture lettrée au Québec en rappelant la nécessité de procéder à un inventaire de notre patrimoine imprimé. Comme on s'en est aperçu en l'écoutant, il s'agit là, à n'en pas douter, d'une condition préalable à toute enquête prenant pour objet l'histoire intellectuelle du Québec, et notamment l'étude des réseaux transatlantiques au sein desquels s'écrit cette histoire. Yvan Lamonde de l'Université McGill et spécialiste de l'histoire des idées de l'imprimé au Québec était déjà parvenu aux mêmes conclusions au terme notamment de son histoire de l'enseignement de la philosophie au Québec ou encore de son histoire sociale des idées au Québec et l'on pourrait multiplier alors les exemples. Sans cesse formulé par plusieurs chercheurs au cours des 10 voire des 20 dernières années, le souhait de voir se réaliser un jour au Québec un projet d'inventaire des imprimés anciens procède donc d'abord des nécessités de la recherche, y compris celle en histoire du livre et de l'imprimé. Bien entendu, les ouvrages anciens de plusieurs grandes bibliothèques universitaires ainsi que ceux de BANQ sont inventoriés et accessibles, mais on doit avouer notre ignorance commune à l'égard des collections québécoises de livres anciens conservés dans d'autres institutions d'enseignement et dans les bibliothèques des communautés religieuses. C'est donc dans ce contexte, que depuis plus de 2 ans maintenant, Bibliothèque et Archives nationales du Québec travaille de concert avec plusieurs groupes de recherche universitaires, rattachés en particulier à l'Université du Québec à Rimouski, avec Claude Lacharité, qu'on a nommé tout à l'heure, à l'Université Laval, avec Michel Develle et Sabrina Vervac, et à l'Université du Québec à Trois-Rivières, bien entendu, avec Marc-André Bernier. Afin d'établir un premier grand catalogue collectif des imprimés anciens, projet qui a reçu le nom d'IMAC, l'acronyme signifiant ici Inventaire des imprimés anciens du Québec. La nature même d'un tel projet supposait également que se nouent des rapports de collaboration étroits entre universitaires et professionnels des milieux documentaires. Ce dialogue, qui a représenté l'une des dimensions les plus essentielles et les plus stimulantes de ce projet, nous aimerions, Marc-André et moi, le prolonger ce soir, ensemble et en votre compagnie. C'est en effet au sein de ce dialogue ininterrompu que nous avons fixé ensemble les principaux objectifs de ce projet au cours des dernières années, et c'est donc sous cette forme que nous souhaiterions maintenant les évoquer. En parlant du développement du projet, de fait, les différentes bibliothèques québécoises regorgent d'une multitude de livres imprimés du 16e, 17e et 18e siècle. Les institutions universitaires, religieuses ou culturelles conservent ainsi quantité d'ouvrages qui pourraient être de la plus grande utilité à nos recherches et à celles de nos étudiants des cycles supérieurs.
Et puisqu'il s'agit d'une présentation à deux voix, la seconde arrive. Alors, simplement pour donner un exemple à propos de l'utilité d'un inventaire semblable pour la recherche, j'en ai donné la conférence qui précédait quelques exemples à partir de l'histoire de la formation oratoire des premiers lettrés au Québec. Mais on peut très bien imaginer, par exemple, et ce genre de préoccupations fréquentes de nos jours, quelles sont les origines la formation des femmes de lettres à la parole. Alors, l'exemple, en pareil cas, quelqu'un qui s'intéresserait à cette formation des femmes à la parole au 18e, 19e, voire jusqu'au seuil du 20e siècle, aurait avantage à consulter ce qui fut sans doute le best-seller de cette éducation des femmes, qui est la rhétorique à l'usage des jeunes demoiselles d'un certain Gabriel-Henri Gaillard. Il y aurait fort à parier qu'un étudiant québécois devrait aller en France pour aller consulter cet ouvrage, alors que grâce à l'inventaire, il n'aura qu'au bout du doigt à s'apercevoir qu'il y en a quelques exemplaires à Saint-Hyacinthe, par exemple.
Voilà précisément le genre de question devant laquelle un bibliothécaire restait souvent démuni, car malheureusement et trop souvent, les richesses de nos fonds anciens ne sont guère connues et encore moins exploitées. L'ouvrage de Gaillard, C'est vraiment ça.
Oui, Gaillard. Oui, Gaillard. Oui, voilà, okay.
L'ouvrage de Gaillard, comme nous l'apprend le projet IMAC, est pourtant disponible au Collège de Saint-Hyacinthe. Et c'est donc cet important patrimoine qu'il nous importait d'avoir, de préserver, dans un contexte où, inéluctablement, disparaîtront peu à peu, au cours des prochaines années, nombre de communautés religieuses. C'est pourquoi il semblait d'ailleurs si urgent, aux yeux de BANQ, de mettre en évidence la valeur intellectuelle de ces fonds menacés en traçant un portrait exact de ces collections, en créant un catalogue collectif qui donnerait accès aux données recueillies à partir de ce corpus documentaire disséminé à travers tout le Québec. Or, l'information est non seulement fragmentée entre les diverses institutions qui possèdent des collections anciennes, mais elle est aussi très lacunaire. À quelques exceptions près, nous ne savons pas ce que possèdent les institutions, et même celles-ci n'ont souvent qu'une connaissance approximative de leurs fonds. Alors que se développent partout en Europe et en Amérique les grands chantiers de l'histoire de l'imprimé, alors qu'un public élargi commence à prendre conscience de la valeur patrimoniale de ces documents, il était donc temps que les universitaires qui travaillent sur les corpus anciens et leurs partenaires des milieux documentaires rassemblent leurs forces et entreprennent ce projet indispensable, créer sur Internet un nouvel outil de recherche proposant l'inventaire et la mise au jour de l'une de nos plus importantes richesses culturelles.
Alors, ce patrimoine, on l'a vu, constitue une composante irremplaçable de notre histoire culturelle et intellectuelle. Sans ce patrimoine européen imprimé, impossible même de refaire cette histoire intellectuelle et culturelle du Québec. En effet, dès lors que l'on travaille à cette histoire, les questions qui se posent d'entrée de jeu, quel livre lisaient donc les élites lettrées du Québec de jadis? Où sont-ils conservés? Comment peut-on y avoir accès? Ces premières interrogations en appellent évidemment d'autres qui s'ouvrent à la dimension historique de ce corpus. Par exemple, à qui ces livres ont-ils appartenu? Autre exemple, il n'est pas indifférent, je crois, on l'a vu tout à l'heure, de savoir ce que contenait la bibliothèque d'un Louis-Joseph Papineau. Et lorsque ces ouvrages se retrouvent dans telle ou telle bibliothèque, en vue de quel usage, par quels moyens ont-ils été acquis, quels ont été leurs parcours? Alors, est-ce que certains noms, et enfin aussi une question qui permet de faire un portrait des habitudes de lecture des élites québécoises de jadis, que retrouve-t-on en abondance dans ces bibliothèques? Qu'est-ce qui est plus rare? On peut ainsi dresser des profils à partir d'un pareil travail de terrain.
Bref, voilà autant de questions qui interpellent autant le milieu documentaire québécois que toute personne curieuse de l'histoire intellectuelle du Québec. Mais poursuivons. Dans quelles conditions ces livres sont-ils conservés? Leurs propriétaires actuels leur reconnaissent-ils une valeur patrimoniale? Comment conçoivent leurs droits et leurs devoirs à l'égard de ces documents? Comment entrevoient-ils l'avenir de ces collections? Lancé à la fin 2005, le projet IMAC s'est donné pour tâche et pour ambition de répondre à ces questions. Mais d'une manière plus concrète, il a surtout supposé que nous lancions un chantier aussi vaste que complexe, dont je voudrais maintenant évoquer tour à tour, en compagnie de Marc-André, les trois principales phases. La phase 1, que Marc-André a appelée la phase la plus exaltante, en mai 2004, Michel Devel, spécialiste d'histoire moderne à l'Université Laval, organisait un colloque-atelier en collaboration avec BANQ et l'ACFAS. L'événement réunissait une soixantaine de chercheurs issus du monde universitaire et des bibliothèques et permit d'entendre une vingtaine de communications qui ont abordé un aspect ou l'autre de ce projet d'inventaire. Cette réunion préparatoire a surtout confirmé la pertinence du projet entrevu.
Confirmer la pertinence et en même temps soulever plusieurs questions extrêmement épineuses. Et c'est alors à l'occasion de ce colloque que nous avons fixé certaines des orientations fondamentales concernant ce travail de catalogage bibliographique. Alors, est-ce qu'on fait des notices longues ou courtes? Alors, on a coupé la poire en deux, comme vous le verrez, on est allé pour la notice intermédiaire. Avec une description matérielle ou non? Alors, on a opté pour pas de description matérielle, c'est-à-dire en velin, cuir, bon, etc. Parce que sinon, je crois qu'on aurait eu un rythme de 10 notices par année. Alors, le nombre d'ouvrages visés. Alors ça, évidemment, comme il s'agit de fonds, donc on connaît très mal le contenu, Et on se lançait dans un projet où on ne savait pas vraiment si on avait 10 000 notices devant nous à faire, 40 000, 100 000, 200 000. Alors, une vieille tradition de McGill prétendait, c'est le bibliothécaire de l'Université McGill qui nous l'a rapporté. À McGill, nous a-t-il dit sentencieusement, nous avons toujours considéré que nous avons la moitié des ouvrages anciens au Québec. Alors, comme ils en possédaient 40 000, nous avons dit, bon, ben voilà, appuyons-nous, prenons appui sur cette tradition et concevons le projet de manière à ce que, hypothétiquement, nous trouverions au terme 40 000 ouvrages. Et puis bon, les critères permettant de délimiter le corpus, imprimés, manuscrits. Alors certains, oui, pour certains manuscrits, on l'a vu pour des manuscrits qui ont une fonction d'imprimé, comme ceux que je vous ai montrés. Les limites chronologiques, 1700, 1800, il y a un petit débat. Moi, je suis 18e, alors évidemment, j'étais content que le coup près tombe, c'est le cas de le dire, en 1800 et non pas en 1700. La nature des documents, donc, et puis voilà, donc vraiment les questions essentielles relativement aux orientations générales. Et puis ensuite, cette discussion nous a conduit tout naturellement à la phase 2, qui est la plus laborieuse, puisque c'est celle du financement, de la division des tâches, l'organisation pratique, voire informatique, d'un grand projet. Alors, vous vous souvenez, il y a cette phrase célèbre de Charles Péguy qui disait que tout commence en politique, que tout commence en mystique et tout se termine en politique. Alors, nous, tout a commencé avec cette exaltation, et puis là, tout est terminé en informatique. Alors, il y a eu aussi la question du financement. Alors, évidemment, le financement a été assuré en grande partie, puis c'est le temps de remercier la Chaire de recherche du Canada en rhétorique de l'Université du Québec à Trois-Rivières, la Chaire de recherche du Canada en histoire littéraire de l'Université du Québec à Rimouski, le Cercle interuniversitaire d'études sur la République des lettres, que dirais-je, Thierry Belguic à l'Université Laval, les fondations de l'UQAR, de l'UQTR et de l'Université Laval. Mais ceci, c'est le moment de souligner que les fonds ainsi obtenus ont surtout permis de monter des équipes de travail constituées d'étudiants à la maîtrise ou au doctorat qui font des mémoires ou des thèses 16e, 17e ou 18e siècle et qui, sur le terrain, avaient pour charge d'assurer la cueillette des données. Composés d'étudiants en littérature ou en histoire, ces équipes devaient être formées au travail. Alors, je veux simplement évoquer une anecdote parce qu'elle est extrêmement amusante. Il me semblait important, vous l'avez vu tout à l'heure à l'occasion de la conférence, que ces étudiants qui connaissent bien la période, hein, ils font de mémoire une thèse 17e, 18e, mais ils ne savent pas toujours le latin. L'enseignement du latin se perd. Alors, à partir de ces fonds, j'ai cru bon l'engager pour leur donner des cours de latin, cette chose rare qui est devenue de nos jours un professeur de latin. Et étant donné ce qui est devenu l'université de nos jours, regardez un petit peu cette anecdote, je la trouve toujours tellement amusante à rapporter, la manière dont j'ai dû libeller le contrat du professeur de latin, agent préposé à la formation des opérateurs affectés à la cueillette et au traitement des données. Alors, je voulais simplement vous donner un exemple qui illustre en même temps aussi la fonction de ce projet, secourir les humanités et les savoirs fondamentaux dans l'université québécoise qui, comme vous le voyez, à la lumière de ce libellé, est menacée. Alors voilà comment on cherche à sauver les humanités au Québec. Alors voilà, mais ces opérateurs, donc, à l'affecter à la cueillette des données, ne devaient pas que savoir le latin. Et c'est voilà. Là qu'intervient Michel.
Oui, mais ces opérateurs, voilà, affectés à la cueillette et au traitement des données, devaient également recevoir une formation dans le livre ancien. Et c'est ici qu'entre en scène BANQ, soutien bibliothéconomique, contrôle général de qualité bibliographique, et ça, c'était à peu près mon rôle à moi. Et aussi, à ce travail d'encadrement assuré par BANQ, s'ajoute le repérage des sites inventoriés. Et ça, c'était le travail, c'est toujours le travail de mon collègue Éric Bouchard, qui est ici ce soir.
Qu'on salue, qu'on remercie.
Oui, qu'on remercie. Sur le fond informatique, enfin, BANQ a travaillé de concert avec les bibliothécaires de l'UQTR et notamment Benoît Séguin pour assurer une diffusion, comme on le verra tout à l'heure sur le catalogue Alpha de l'UQ. Mais avant d'en arriver à notre conclusion qui consistera précisément à montrer une notice enfin diffusée, évoquons la phase 3 qui se déroule sur le terrain. C'est ici le moment des découvertes et de l'établissement final. Au fil des cas qui se présentent, des procédures de catalogage que nous sommes d'ailleurs parvenus à consigner dans une sorte de livret d'une cinquantaine de pages qui précise tout depuis le livre sur le rayon jusqu'à la notice sur Internet. Mais tout cela, comme dans tout projet, s'est réalisé par une procédure accumulant essais et erreurs.
Alors, on a commencé par un fonds ancien de les locaux de recherche du département de lettres et communication sociale de l'Université du Québec à Trois-Rivières, où on a une collection assez importante d'ouvrages avant 1800 et avant 1900 pour que nos étudiants puissent un peu se roder. Ensuite, ils ont procédé à l'inventaire du fonds ancien du collège Brébeuf, du collège jésuite donc de Montréal, et du collège de Saint-Hyacinthe. Nous avons en tout... Il y a présentement 500 notices disponibles en ligne et nous en avons 3000 en réserve prêtes pour diffusion en raison du passage du catalogue Manitou, qui était le grand catalogue de l'UQ, à Aleph. Et ce passage vient de se faire là, au cours des derniers mois et ça a retardé donc la diffusion en ligne de ces 3000 notices prêtes à Trois-Rivières. Il y en a quelques 2000 prêtes à Québec, à l'Université Laval, et quelques 2000 également prêtes à Rimouski. Alors, venons donc pour l'état du projet.
Pour chaque collection cataloguée, les étapes de travail et les responsabilités se partagent donc comme suit. Premièrement, la cueillette des données. Elle se fait sur place par des équipes d'étudiants supervisés et spécialistes en latin. Comme il importe d'investir le moins longtemps possible les lieux où sont conservées ces collections, on a convenu de prendre pour chaque ouvrage une photographie numérique des pages contenant l'information bibliographique pertinente. À cette étape, les étudiants prennent des notes additionnelles s'il y a lieu, afin de remplir les champs descriptifs qui se rattachent à l'exemplaire qu'ils ont entre les mains. La deuxième partie, c'est le repérage des notices mères. De retour à l'université, les étudiants interrogent diverses bases de données afin de repérer, parmi les notices disponibles, celles qui correspondent à chacun des ouvrages qu'ils ont eus entre les mains. Elle sera corrigée s'il y a lieu et finalement uniformisée par un étudiant chef d'équipe suivant le bordereau catalographique retenu. La troisième partie, c'est le contrôle de qualité. Ces lots de notices uniformisées sont ensuite transmis à BANQ qui les confie à deux bibliothécaires fraîchement diplômés et embauchés spécialement pour soutenir ce projet d'inventaire. La dernière section, c'est la constitution du catalogue collectif. La quatrième et dernière étape du travail, c'est-à-dire le versement de ces notices dans un catalogue collectif.
Et la voici. En voici une. Et voilà. Alors, vous voyez donc, notice pour le projet IMAC. Voilà l'exemple. Vous voyez donc, on n'a pas de bibliographie matérielle, mais... Vous voyez ici la localisation IMAC, collection des livres anciens, collège Brébeuf. Alors les exemples qu'on vous montre sont tirés du collège Brébeuf. Ici, la particularité du catalogue, c'est que vous avez non seulement la notice, mais si vous cliquez, vous avez au moins une image associée à chaque notice. Alors voilà, ici, réflexion sur la rhétorique et sur la poétique de Fénelon qu'on a évoqué tout à l'heure.
Oui, ça c'est l'image que les étudiants prennent quand ils font leur cueillette.
Voilà. On peut donner d'autres exemples de ces fonds. Alors, on va prendre par exemple Descartes. Hein. Vous voyez comment, à partir des exemples qu'on a, on peut avoir. Bon, on va prendre la page titre toujours. On prend toujours la page titre. Donc les principes de philosophie ici. Quelquefois, quand il y a une image intéressante comme une gravure, les étudiants la numérisent. Vous avez donc une gravure représentant Descartes. Et puis vous avez l'ex libris. Dont j'ai évoqué l'importance tout à l'heure. Voilà. Alors, pour Descartes. Alors, peut-être un autre, d'autres exemples. Diderot. Alors, prenons Diderot. Alors, quelle image voudrais-tu? Alors, voyez la notice. C'est l'encyclopédie, la célèbre encyclopédie Diderot.
La page de titre, oui.
Voilà. Alors, vas-y, Michel.
Mais ça, c'est l'édition originale de l'encyclopédie de Diderot d'Alembert, donc un ouvrage absolument fondamental. Et c'est surprenant de trouver... dans un sens, c'est surprenant de trouver autant d'exemplaires de l'encyclopédie parce que je pense, moi, depuis que je me promène, ça fait peut-être une dizaine ou une douzaine que je vois dans les bibliothèques. Et c'est un ouvrage, premièrement, qui était à l'index, bien entendu, mais c'est un ouvrage énorme pour un bibliophile, un collectionneur, d'acheter. Premièrement, c'est très, très cher à l'époque. Et aussi de faire venir au Québec Le transport a dû coûter également très, très cher. Donc, ce serait intéressant peut-être pour un travail d'un étudiant à Marc-André de voir un peu la distribution peut-être des exemplaires de l'encyclopédie de Diderot d'Alembert au Québec, disons, avant 1850. Je pense qu'il y a d'ailleurs
un ex-libris, celui-là, qui est très intéressant.
John, oui. C'est John Fleming. John Fleming, qui était un marchand écossais, canadien-écossais, qui a travaillé beaucoup pour la Banque de Montréal, les débuts de la Banque de Montréal. Un homme qui était assez riche, mais aussi extrêmement cultivé, et qui avait une bibliothèque qui allait jusqu'à 10 000 livres, 10 000 volumes plutôt, et qui a été mise en vente aux enchères en 1833, après la mort de M. Fleming, qui est mort du choléra en 1832. Je pense qu'il avait 45 ans, quelque chose comme ça. Alors ça, c'était cet exemple qu'on vous montre provient d'une des grandes collections privées du 19e siècle au Québec.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a peut-être...
Elle est où, cette...
Brébeuf.
À Brébeuf,
donc chez les jésuites. Jésuites, ordre de savants d'hérésie, bien souvent, hein, comme pourrait le montrer ici, cette autre notice, donc un lexique hébraïque, chaldéen, qui montre bien le plurilinguisme. Hein,
si tu montres la page de titre aussi, peut-être...
Oui, peut-être, oui, voici. Donc, voilà.
Ça vous donne une idée, ce que les étudiants voient, donc souvent des étudiants qui n'ont pas vu beaucoup de livres anciens, sont confrontés à une page de titre comme ça, et ça peut être assez déroutant au début. Mais ils s'en tirent très bien.
Oui, de là la nécessité de recourir au service d'un agent préposé à la formation des opérateurs. Ouais. Alors voilà, puis peut-être un dernier exemple de notice. Attendez. La mort, oui, voilà, parce que c'est une curiosité intéressante. Traité de la police. Alors, d'ailleurs, une belle anecdote à ce propos. Laurent Turcot, qui a fait une thèse sur les promeneurs à Paris, racontait que cet ouvrage, il avait traversé l'Atlantique, il était allé à Paris pour le consulter, ignorant précisément, faute de catalogue collectif, que, ben, ma foi, l'ouvrage était de l'autre côté de la rue, hein, tout près de chez lui, au Collège Brébeuf. Alors, donc, Traité de la police, où l'on retrouvera l'histoire de son établissement. Et ce qui est assez intéressant, c'est où la page titre, peut-être je la montre, ouais. Michel, voilà. Donc, la page titre.
Avec la signature en haut de Philippe Panet, un député.
Oui, voilà. D'ailleurs, Philippe Panet, gros plan sur Philippe Panet. Donc, député à l'Assemblée législative. Et regardez, aussi les étudiants, de leur propre initiative, hein, par exemple, vont numériser certaines pages qui sont susceptibles d'être particulièrement intéressantes dans l'ouvrage, notamment ce plan de Paris sous Louis XV. Alors voilà, qui est une belle image. Et puis, alors, différentes estampilles aussi, alors, qu'on peut reprendre, des pages titres. Et ici, estampilles collège, encore Philippe Panet. Voilà. Bien, voilà, c'était les quelques exemples que nous voulions vous montrer pour illustrer, en quelque sorte, ce catalogue en voie de constitution, ce work in progress, hein, qui nous occupera sans doute pour une bonne dizaine d'années. Alors... Je vous remercie.
Merci. Est-ce que vous avez des questions, peut-être?
Oui.
Bonjour, donc, et merci de nous avoir fait cette belle présentation. Je suis particulièrement contente de voir le résultat puisque, effectivement, j'avais travaillé sur ce projet. Et donc, ma question concerne les ex-libris. Je souhaitais savoir si vous allez continuer à faire la retranscription des ex-libris pour que ça apparaisse de cette manière-là dans les notices.
Oui, on va continuer, tout à fait, on compte suivre la même voie.
D'accord.
C'est-à-dire que là... On a établi et fixé le protocole de telle manière que, à moins d'avoir d'excellentes raisons, on ne compte plus toucher à rien. D'ailleurs, c'était tellement difficile.
Mais ce qui est difficile avec les ex-libris, c'est la lecture souvent, et aussi de partager et départager, ce qui est encore plus difficile, les provenances qui sont québécoise ou canadienne, et les provenances qui peuvent être européennes également. Donc, des provenances qui seraient beaucoup moins importantes pour nous. Mais c'est très difficile quand on voit un nom, une signature. Est-ce que c'est quelqu'un qui habitait à Québec ou à Montréal ou quelqu'un qui habitait à Paris? C'est vraiment pas évident. Donc, je pense que la meilleure solution, c'est toujours de tout inclure. Mais la grosse difficulté, c'est la lecture. C'est souvent la transcription qui est plus ou moins exacte. C'est ça le problème.
C'est ça, oui, quelquefois. D'ailleurs, quelquefois, bon, on ne transcrit pas, faute de pouvoir déchiffrer.
On a une photo, au moins.
Bon, il y a au moins la photo, oui. Alors. Oui. S'il y en a qui...
Ouais.
Voilà. Comme ça, les gens peuvent en juger par eux-mêmes dans le cas d'une signature indéchiffrable.
Très bien. Je vous remercie.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de cette... D'abord, j'ai remarqué avec admiration la belle signature de M. Fleming et de Philippe Panet. Là, je voudrais vous demander qu'est-ce que vous pensez de cette très mauvaise habitude que l'on voit des gens qui signent quelque chose et ce n'est pas une signature, j'appelle ça une simagrée. Je trouve ça presque insultant, souvent, de voir à des endroits des gens qui sont payés des millions et qui vous font une signature de simagrée. Qu'est-ce que vous pensez de cette habitude?
Je voudrais vous dire...
Pourquoi aller à l'école et apprendre à écrire puis signer comme ça?
Alors, je vais vous raconter une anecdote encourageante. Pour vous dire que les choses ne vont pas toujours nécessairement en empirant, ce qui peut être le cas à bien des égards. Mais dans le cas du rapport aux livres et aux signatures, je donnerai juste l'anecdote. Au 19e siècle, il était très courant, non pas de faire une signature ou une pseudo-signature comme celle que vous évoquez, mais carrément de prendre une paire de ciseaux pour collectionner les signatures illustres. Et d'ailleurs, à Nicolet, il y a une sorte de scrapbook d'un père dont le nom m'échappe, enfin c'est pas une grande figure, et qui a intitulé son scrapbook « L'œuvre de mes ciseaux », où il a mutilé dans toutes les bibliothèques d'Europe et d'Amérique du Nord les livres où se retrouvait une signature d'un homme illustre. Alors vous voyez quand même, ça c'est un exemple du 19e siècle qui nous encourage à ne pas trop désespérer des pratiques de nos adolescents armés d'un marqueur jaune fluo.
Daniel?
Bonsoir, merci de cette présentation. Il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est la question de la persistance de la tradition manuscrite que Marc-André a évoquée au début. Et je me posais la question, dans le cas des traités de rhétorique, qui semblent avoir persisté au Québec sous forme manuscrite assez longtemps, malgré la présence de presse imprimée, est-ce que c'est quelque chose qui est en partie dû à la rareté des presses imprimées au Québec au 18e, ou si c'est une tradition qui est vraiment typique de la discipline de la rhétorique?
Elle n'est pas typique, c'est ni un ni l'autre. C'est-à-dire que ça ne renvoie pas à une spécificité québécoise. C'est-à-dire qu'en France, ça fonctionne exactement de la même façon. Ça fonctionne comme ça dans tous les collèges d'Europe. L'imprimé sert plus souvent, le manuscrit sert plus souvent que l'imprimé de support à l'enseignement. Et de ce point de vue-là, donc, ce n'est pas une spécificité québécoise et ce n'est pas cantonné non plus au seul enseignement de la rhétorique. C'est le cas de toutes les disciplines. Alors, un très bel exemple de ça, d'ailleurs, qui montre très bien comment la culture savante au Québec, et là, ça reprend à rebours beaucoup d'idées reçues sur un Québec fermé sur lui-même, etc. Quand on étudie l'enseignement, je pense, par exemple, à un très beau cours manuscrit d'histoire et de géographie au séminaire de Québec, 1801, histoire d'Égypte. La campagne d'Égypte de Napoléon est 1799. Deux années après, hop, pour la première fois, apparaît l'enseignement de la civilisation égyptienne. Mais encore là, dans un traité manuscrit. Alors, c'est une forme à laquelle recourent les collèges et l'enseignement, parce que l'imprimé reste cher, de manière générale. Et c'est aussi, il ne faut pas oublier, une forme de particularisation de l'enseignement. Un maître, en quelque sorte, a un corpus qui lui appartient, un ensemble de notes de cours, et de telle sorte qu'au sein même d'une institution, grâce à cette tradition du manuscrit, c'est ce qui fait sa richesse d'ailleurs, le même cours de rhétorique ou de philosophie ou de poétique peut être donné de manière complètement différente, puisqu'il n'y a pas qu'un seul ouvrage de référence, mais deux, souvent trois traditions manuscrites manuscrits distincts, et d'une année à l'autre, on passe d'une tradition à l'autre. Ça concerne donc toutes les disciplines, toutes les formes d'enseignement. Et ça recule, voire disparaît, dans le courant du 19e siècle. Alors, Yvan Lamonde a montré pour l'histoire de la philosophie au Québec, c'est exactement la même chose, même phénomène pour la philosophie, support manuscrit, hop, à partir des années 1830, il y a un imprimé qui paraît. Même chose pour la poétique, l'enseignement donc de la littérature, même chose pour la rhétorique, histoire, géographie.
Donc la place prise par l'imprimé est un peu plus tardive, mais c'est, j'imagine, alors je comprends que c'est aussi lié à l'accessibilité à l'imprimé mesure que le 19e siècle avance. En fait.
Et puis en même temps, il faut imaginer que c'est des classes très petites. C'est-à-dire que les tirages scolaires, c'est à partir du moment où l'enseignement tend à se répandre davantage. Alors là, évidemment, on peut faire un tirage de 500, 1000 exemplaires de manuels. Mmh. Alors que pour la classe de rhétorique du séminaire de Québec, vous avez vu la liste des étudiants, hein, ils sont 12, ils sont 15. Mmh. Alors, de là, la commodité aussi du manuscrit qui a fonction d'imprimer, mais pour des groupes qui sont souvent assez restreints.
Merci.
Moi aussi, je vous remercie pour commencer. D'autre part, vous savez, on ramène toujours tout à soi. Alors, je commence par une petite question insignifiante qui me regarde, mais qui débouchera sur quelque chose d'un peu plus intéressant. Je possède une petite douzaine de livres des 16e, 17e, 18e. Allez-vous me cataloguer? Je veux dire, est-ce que vous envisagez de répertorier un jour les ouvrages des collections privées? Mais ça débouche sur autre chose. Vous avez mis beaucoup l'accent sur un aspect patrimonial. Vous avez employé souvent le mot patrimonial. Alors, je dois dire que tout ce que nous possédons de biens au Québec fait partie du patrimoine, d'une certaine façon. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que vous l'entendiez. Vous parliez de documents manuscrits et imprimés qui avaient joué un grand rôle dans la vie intellectuelle et culturelle du Québec. Dans le cas du modeste collectionneur qui vous parle, je n'ai acquis aucun de ces livres au Québec. Ils sont arrivés au Québec dans la deuxième moitié du 20e siècle. Alors, c'est une façon un peu particulière de faire partie du patrimoine. Je suis sûr que vous avez envisagé ça et que dans vos fiches, lorsque vous avez trouvé moyen de le savoir, vous avez marqué quand le livre est entré dans la bibliothèque en question.
L'ex-libris aussi permettrait souvent de voir à quel moment. Hein, alors, si on a.
S'il est daté, mais il n'est pas toujours daté. Mais c'est difficile de dater l'entrée d'un livre au Québec, mais on peut quand même donner une fourchette de date ou au moins le siècle. Et souvent, quand on en a plusieurs, je pense à la bibliothèque des Sulpiciens. Sur laquelle j'ai travaillé, il y a plusieurs façons de signer séminaire de Montréal ou séminaire de Saint-Sulpice, etc. Et on peut probablement dater la calligraphie, ce qui nous permettrait de dater l'entrée des livres au séminaire. Donc ça, je pense que c'est quand même possible, mais il faut avoir un corpus quand même assez gros. Mais pour votre première question, qui était quand même très intéressante aussi, est-ce qu'on va inclure les collections privées? Le grand danger d'inclure les collections privées, c'est que ces collections bougent habituellement. C'est-à-dire que les gens vendent des livres, achètent des livres, donnent des livres, et contrairement aux collections des bibliothèques, des institutions, etc., qui tendent à être beaucoup plus stables. Donc, pour donner des localisations à nos chercheurs, ça peut être assez compliqué. C'est-à-dire que les chercheurs, on devrait faire des suppléments régulièrement pour dire, ben écoutez, tel livre, il était à tel endroit, mais maintenant, il est chez monsieur un tel. Et là, il est rendu chez madame un autre. Et donc, ça serait un peu compliqué, je pense, de faire ça.
Merci beaucoup. Mais quand même une dernière question. Qui était le monsieur en train d'écrire sur l'écran quand nous sommes entrés dans la salle?
Alors, c'est... je reviens au début du... Alors, c'est un dessin de François Baillarger, conservé au Musée national des beaux-arts de Québec, à Québec. Alors, attendez, la voici, début du diaporama. Voilà, donc, c'est François Baillarger, homme assis, écrivant, fusain. Sanguine. 1792. Oui, 1792. Donc, un des plus beaux dessins, d'ailleurs, de la fin du 18e siècle québécois. François Baillarget avait étudié. Alors, vous voyez, encore un parcours assez typique de ce que des parcours qu'on a essayé, des quelques parcours qu'on a examinés ce soir ensemble. Un parcours qui s'inscrit encore là, dans un espace atlantique. Il a fait l'Académie royale des beaux-arts, de peinture et de sculpture à Paris, revenu ensuite à Québec. Et c'est lui, d'ailleurs, qui a joué un rôle important avec Jérôme Demers dans l'introduction du néoclassicisme à la fin du 18e siècle à Québec. Il a travaillé notamment à la cathédrale de Québec. Non, c'est pas un autoportrait. Le titre, on n'arrive pas à savoir de qui il s'agit. Le titre de l'œuvre, c'est « Homme assis écrivant ». Oui, il y a une autre question, je crois, oui. 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 Ce serait une possibilité, en effet. Cela dit, le Musée national des beaux-arts du Québec ne se risque pas une attribution. C'est une vraisemblance, vous faites bien de le rappeler, en effet. C'est une vraisemblance, en effet, il pourrait s'agir de Pierre du Calvet, donc l'auteur de l'appel à la justice de l'État. Le premier, finalement, théoricien de la réflexion constitutionnelle au Québec, le premier d'une longue suite de théoriciens et d'essayistes hein, sur les questions constitutionnelles. Merci hein, de la précision. Voilà.
Merci infiniment.
Là, c'est nous qui vous remercions. Hein. Merci infiniment de votre écoute, attention. De votre présence. Oui.